7h30, le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Le Conseil citoyen sur la vaccination entre ce samedi dans le vif du sujet. Ces Français tirés au sort vont relayer les questions liées au vaccin alors qu'un million de rendez-vous ont déjà été pris par les personnes âgées de plus de 75 ans pour un coup d'envoi donc lundi. Vaccins et restrictions des interactions sociales, toute la France sous cloche dès 18h ce soir pour un couvre-feu désormais national. Avec Delphine Simon, nous verrons ce que les banques mettent en place pour les entreprises pénalisées par le Covid-19. Et puis nous irons à Washington, une ville transformée, encore retranchée à quelques jours de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.
Les invités de la matinale, à 8h10, Patricia Martin, vous recevrez...
Le philosophe Abdennour Bidar, spécialiste de l'islam contemporain, qui publie aux éditions Almora une sorte de livre-poème, Révolution spirituelle. Tel en est le titre.
À 8h20 ce matin, question à Aurore Berger, la députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.
France Inter.
Ils sont 35 Français tirés au sort pour suivre la campagne de vaccination contre le Covid-19. Eh bien, c'est aujourd'hui, samedi, qu'ils vont se réunir pour la première fois.
C'est le Conseil citoyen, une expérience de démocratie directe destinée à accompagner cette campagne de vaccination. Mandatée pour faire remonter les craintes, les peurs, les questions éthiques, ils vont commencer réellement leurs travaux à partir du 28 janvier et se réuniront ensuite pour des séquences de 3 jours de travail, une fois par mois, samedi Dauphin.
18 femmes et 17 hommes sont chargés de faire remonter les préoccupations de l'opinion publique pendant la durée de cette campagne de vaccination jusqu'au mois de juillet et même après pour en faire le bilan. Ils viennent de toutes les régions, de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle. Un exercice de démocratie participative fustigé dans la classe politique par l'opposition, caricaturé en comité Théodule. Laissons-les travailler avant de juger, plaide Marie-Andrée Blanc, membre du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, chargé de la mise en place de ce collectif citoyen.
La mission du collectif citoyen, elle n'est pas de faire des propositions politiques sanitaires et vaccinales, mais d'intervenir en amont. Il s'agit de remonter leurs craintes, leurs observations, pour aider à faire de cette campagne de vaccination, évidemment, un succès. Mais ni le Conseil économique, ni le collectif citoyen ne sont là pour déterminer la politique vaccinale. On est là pour accompagner au mieux cette campagne de vaccination.
Ce collectif de citoyens est censé refléter la diversité des avis sur les vaccins. Seuls 38% se disent favorables à la vaccination, 17% y sont hostiles et 45% se déclarent indécis.
Samedi Dauphin, la vaccination en France après un retard à l'allumage, il est vrai, jeudi. Plateforme de réservation et site internet saturé. Hier, 833 centres étaient ouverts et accessibles à la réservation. 1 million de rendez-vous ont déjà été pris. Cette vaccination, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé appelle à son démarrage dans tous les pays dans les 100 prochains jours. En Inde, l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde va démarrer ce samedi. Le pays prévoit de vacciner 300 millions de personnes d'ici le mois de juillet. Aux États-Unis, Joe Biden entend accélérer l'immunisation des Américains avec la création de milliers de centres de vaccination de proximité. Le président élu souhaite que 100 millions de doses soient injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat, alors que des retards de livraison menacent de ralentir les opérations d'approvisionnement de doses Pfizer en Europe. En attendant, c'est reparti pour de nouvelles restrictions en France. Coup d'envoi ce soir 18h du couvre-feu, cette fois sur tout le territoire. Face à la menace des nouveaux variants, le gouvernement espère réduire ainsi davantage encore les contacts sociaux sur les heures de fin de journée. Un nouveau couvre-feu, son mode d'emploi avec Solène Cressant.
Vous avez le droit de sortir promener votre chien ou de rentrer du travail après 18h, par exemple. Mais dans tous les cas, il vous faudra une attestation dérogatoire, comme c'était déjà le cas pour la Drôme, l'Allier ou la Haute-Marne, ces départements sous couvre-feu depuis plusieurs jours. La préfecture des Hautes-Alpes précise que vous pourrez aller en pharmacie ou chez votre médecin après 18h. Cela fait partie des motifs autorisés. Le médecin pourra même vous fournir une attestation supplémentaire pour justifier le déplacement tardif en cas de contrôle. Tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h. Le porte-parole du gouvernement assure que les contrôles seront renforcés dans les grandes surfaces, car ce couvre-feu à 18h va inciter les Français à aller faire leurs courses le week-end, ce qui peut provoquer des afflux de clients. La jauge dans les magasins sera donc contrôlée.
Solène Cressant. Conséquence de ce couvre-feu national à 18h, les banques n'ont d'autre choix que de se mobiliser pour réactiver les moratoires sur les crédits des entreprises, des crédits consentis lors du premier confinement. Delphine Simon, les banques vont également accorder un sursis d'un an pour rembourser les premières échéances des PGE, les prêts garantis par l'État.
Au même mot, les mêmes remèdes. Le gel des remboursements de crédit a fait ses preuves au printemps dernier pour sauver les entreprises. Avec le brouillard épais qui continue de planer sur l'économie, elles vont pouvoir en bénéficier à nouveau cet hiver, mais ce sera au cas par cas, explique Maya Attig, la directrice générale de la Fédération bancaire française.
Aujourd'hui, énormément d'entreprises continuent à payer leurs échéances sans difficulté, donc il faut vraiment se concentrer sur ceux qui en ont. Et pour ces entreprises, le moratoire, c'est pas automatique ou généralisé, c'est vraiment une option qui est proposé, qui est à discuter de façon personnalisée.
Du cas par cas, c'est ce qui inquiète certains hôteliers très fragilisés. En revanche, les entreprises pourront bénéficier d'une deuxième année blanche pour rembourser les prêts garantis par l'État, un report déjà accordé par plusieurs réseaux bancaires.
Les banques se sont engagées à ce que les clients qui demanderont cette possibilité de commencer à rembourser un an plus tard, elles rembourseront au total sur 6 ans, mais avec les 2 premières années pendant lesquelles elles ne payent pas le capital, cette facilité leur sera accordée systématiquement par leur banque.
630 000 entreprises ont souscrit ces PGE. Selon la Fédération bancaire, la moitié d'entre elles vont rembourser rapidement et sans difficulté majeure.
Les explications de Delphine Simon. On part aux États-Unis, Laurence, où Donald Trump a fait savoir qu'il quitterait la Maison-Blanche et Washington au dernier moment, juste avant l'investiture de Joe Biden.
Visiblement désireux de ne pas quitter la capitale fédérale américaine en tant qu'ex-président, l'homme d'affaires, très sensible au décorum, rejoindra avant donc la fin de son mandat, tout juste avant, la Floride et son luxueux club de golf de Mar-a-Lago où il compte s'installer. Après un départ en hélicoptère, depuis les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump s'envolera depuis la base militaire d'Andrews pour son dernier vol à bord d'Air Force One. Washington est devenue, elle, une ville totalement méconnaissable, transformée en camp retranché après les violences du Capitole, car, Franck Mathevon, les autorités redoutent la menace d'extrémistes armés.
Le FBI en est convaincu, l'investiture est une cible. Un dispositif exceptionnel est prévu pour le jour J, mais aussi avant et après. Dès aujourd'hui à Washington, le Secret Service met en place ce qu'on appelle une zone verte, entièrement sécurisée, autour du Mall, l'immense esplanade au pied du Capitole. Les quartiers alentours sont bouclés, circulation impossible, métro fermé. Depuis plusieurs jours déjà, la capitale américaine est transformée en forteresse. Des milliers de soldats sont déployés. Ils seront 25 000 membres de la garde nationale sur place le jour de l'investiture. Les autorités surveillent les réseaux sociaux, les discussions en ligne entre extrémistes pro-Trump. Un appel a été lancé pour des manifestations en armes demain devant le Capitole à Washington et les sièges des assemblées locales des 50 États. Joe Biden, qui sera à Washington mardi, se prépare à prêter serment dans une ville devenue un camp retranché. Il y aura 5 fois plus de soldats américains dans la capitale qu'en Irak et en Afghanistan réunis. Washington, Franck Mathevon, France Inter.
Et depuis 11 semaines maintenant, les cinémas sont fermés et ça commence à faire long pour les spectateurs habitués des salles obscures.
Alors, certains bravent les interdictions. Une projection sauvage en extérieur a eu lieu hier soir, vendredi à 18h. C'était à Paris, au-dessus du cinéma d'art et d'essai associatif La Clé, occupé illégalement depuis déjà 1 an et demi, Mathilde Vinceneuf.
Le film est projeté depuis le toit du cinéma sur la façade d'un immeuble. C'est l'entracte de René Clair, une suite de scènes surréalistes en noir et blanc, accompagnées par des musiciens installés sur le trottoir avec leur table de mixage.
En fait, on est ici pour rappeler qu'on est vivant, déjà.
Laurie est membre de la Société des réalisateurs de films à l'initiative de cette projection.
Et on pense aussi que c'est bien moins risqué, par exemple, de passer ici, de voir un film qui dure à peu près 25 minutes, hein, donc c'est très court, que d'aller braver une foule dans un métro, dans un grand magasin.
Dans la rue, ils sont plus d'une centaine. Patricia et Vincent ont les yeux rivés sur la façade.
C'est un côté un peu miraculeux, c'est fou, je regardais tous ces gens avec nos masques. Ça donne un peu d'espoir dans cette horreur du confinement à 18h.
Le fait d'être transporté dans un autre univers, moi j'ai traversé tout Paris, vous vous rendez compte à quel point le cinéma nous attire.
C'est sur les réseaux sociaux que Rachel, étudiante, a repéré la projection Les Salles Obscures lui manquent.
Juste sentir que les gens à côté de vous ressentent les mêmes émotions possiblement, ça manque en fait d'être dans le noir tous ensemble.
Une projection salvatrice donc, mais bien illégale, ce sera sans doute la seule organisée ici cet hiver.
Mathilde Vinceneuve, 26 départements en vigilance orange pour neige et verglas. On voit cela dans un instant avec Jean-Michel Golinski. Sachant qu'en Alsace, il y a déjà déjà beaucoup de neige. Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. Les transports scolaires sont interrompus ce matin.
C'était le journal de Laurence Thomas.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Et effectivement, Jean-Michel Golinski, ce sera bien un samedi hivernal.
Ah, tout à fait, Eric. Alors ce matin, les températures sont positives près de la Méditerranée et de l'océan, avec par exemple 10 degrés sur le Finistère, 7 à Hyères ainsi qu'à Figari. Contraste avec les moins 12 relevés sur la Lorraine, les moins 3, moins 6 en général sur les autres régions, avec des pluies qui abordent la Bretagne. Naturellement, pluie et froid ne feront pas bon ménage. Le tout va se transformer en neige et verglas ce matin sur le Val-de-Loire et la Normandie. Avant midi sur les Hauts-de-France, le bassin parisien et le centre, et puis en fin de journée sur le massif central et du nord-est au nord de Rhône-Alpes. Dans cette zone, 26 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Un certain redoux va arriver sur la Normandie en fin de matinée, puis sur Lille, Paris et Bourges en fin de journée. Dans le tiers sud, du sud-ouest à la Méditerranée, temps sec mais venté dans les couloirs du Mistral et de la Tramontane. Au nord de la Loire, le vent sera également sensible, de secteur sud dans un premier temps, puis d'ouest lorsque le redoux va s'amorcer.
Jean-Michel Golinski de Météo France.